salut, bon vendredi sous le soleil. Québec est magnifique vraiment aujourd'hui. On dirait que vous êtes un peu en vacances. Je trouvais que sur les réseaux routiers, c'était somme toute correct. Jusqu'à temps qu'en m'en venant à la station, après le gym, je prenne deux accidents. Bon, pas moi qui les a causés, mais il y avait deux accrochages. Puis je trouve que dans les dernières heures, c'est pas cinq accrochages que j'ai croisés, c'en est au moins dix, là. Je niaise, mais honnêtement, deux ce matin, un hier soir assez tard, la semaine passée, au moins trois. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sur nos réseaux routiers? C'est le plus grand nombre d'accrochages que j'ai vu de ma vie dans l'espace-temps là, de deux semaines, là. Honnêtement. Je ne sais pas si vous avez un peu le même feeling que moi, autant que les autoroutes et tout ne sont pas nécessairement bondées comme on va connaître dans une semaine, vu les heures de pointe, le retour à l'école pour tous et chacun. Mais ça me fascine. Puis j'en parlais aussi avec Marceau hors d'onde la semaine passée, puis il me niaisait un peu, puis il disait « Voyons, t'es donc bien focussé sur les pannes, mais des pannes de voitures aussi. » Je ne sais pas c'est dû à quoi, mais le nombre de pannes que je constate quand je vous fais l'étendue de ce qui se passe sur nos réseaux routiers dernièrement, c'est vraiment plus élevé que ce qu'on est habitué de voir. Hey, salut tout le monde! Quelqu'un qui dit « c'est peut-être toi qui es cause, non Christian? » Hey, salut tout le monde! Bienvenue dans l'RCV en ce vendredi, 10h02. C'est un bonheur d'être avec vous. Très, très heureuse de commencer cette heure-là avec tout le monde qui commence à apparaître au 88-971-1021 ou encore sur Twitch. Vendredi, bien sûr, on a des tannants qui nous écrivent, entre autres un de nos auditeurs réguliers qui dit « Hey, c'est trop tôt pour ouvrir une bière? 10h02, qui suis-je pour vous dire quoi faire? Êtes-vous en vacances? Êtes-vous dans un endroit sécuritaire pour l'ouvrir cette bière-là? » Ben, peut-être. Écoutez, c'est un choix qui vous revient. Soyez prudents, amusez-vous, mais il fait beau, là. Honnêtement, c'est une température pour une terrasse aujourd'hui, 20 degrés. Allez vous faire un petit tour sur Grande Allée, allez au Maurice, je sais pas, dîner, souper, ou partout ici dans la ville de Québec. Il y a des vacanciers. Vous êtes beaucoup aussi du côté d'Expo Québec. Expo Québec avait pris une pause dans certaines années, je pense que c'est autour de mi-2000, si je ne me trompe pas, et qui revient avec des prix très, très alléchants, honnêtement. C'est assez facile, même pour un passeport de manège, autour d'une vingtaine de dollars, d'aller en profiter. Vous êtes beau, c'est le fun. Les feux d'artifice hier, l'Auto-Québec, ici, peu importe où on est dans la ville, on peut peut-être essayer de trouver un petit spot, puis on le voit, mais sinon, sur le site, c'est toujours la meilleure manière d'en profiter. Notre collègue Mathias, qui vous accompagne en plus chaque mardi, jeudi, avec la musique au 102.1. Hier, c'était une belle journée d'été. Dans les casse-croûtes, au Feu l'Auto-Québec, à Expo Québec, où a quelque chose d'assez spécial. On va parler de ce qui est positif parce que du côté de l'actualité, ça brasse, mesdames et messieurs, puis pas à peu près. Sur les réseaux routiers en ce moment, c'est ce que je vois. Il y a du trafic un peu partout, même sur Laurentienne Sud en ce moment, direction sud. Là. Je vois que ça ralentit déjà pour prendre la capitale. Dans le coin de Saint-Augustin aussi, c'était plein ce matin. Faites attention. Certains ont leur théorie par rapport aux accidents. Beaucoup d'impatience, de manœuvres dangereuses sur les routes ces temps-ci, selon Marie-Ève. Quelqu'un qui dit c'est glissant la glace noire. Ouais, peut-être pas Carl, par contre, là. Mais il y a quelque chose, honnêtement, que je trouve qu'on constate. Je sais pas, est-ce qu'on est trop dans notre tête? On est content avec le soleil, puis je sais pas, on est moins conscient sur nos réseaux routiers. Mais il y a des accidents. C'est ainsi, il y a une coupe d'accrochage. Là. Je pense que les compagnies d'assurance sont un peu débordées. Pas juste avec ce qui se passe au niveau d'Air Canada. Si vous aviez des vols à prendre et tout, on savait que ça allait prendre un 7 à 10 jours avant que ce soit résorbé, là, les impacts d'Air Canada. Hier, j'appelais mes propres assurances voyage parce que je pars dans un mois pour le Kilimanjaro avec ici, là, entre autres, Marc-Antoine Reed qui fait de la chronique financière, ma collègue du côté de Week-end, Joanie Fortin, et plein de beaux entrepreneurs de la ville de Québec pour la Fondation Cerveau. Puis l'attente, là, c'était 30 minutes. Puis ce qu'on nous disait, c'était justement dû à toutes les problématiques de Air Canada, puis des changements de vol, puis de ci, puis de ça. Il y a du monde sur la ligne, mesdames et messieurs. Il y a du monde aussi sur la ligne télé pour la commission Galant. Aujourd'hui, on attend nul autre que l'actuelle ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbeault. Elle va devoir livrer à son tour sa version des faits concernant le fiasco SAAQ Click. Madame Guilbeault qui a dit qu'elle avait vraiment, vraiment, vraiment hâte de témoigner dans les dernières prises de parole qu'elle a offertes aux médias. Et hier, c'était son prédécesseur au transport, François Bonnardel, qui a martelé avoir reçu des informations incomplètes, erronées à propos des coûts du projet. Il s'est défendu comme ça. On le voyait un peu stressé, mais est-ce que ce sera la même chose pour Mme Guilbeault? Ben, c'est ça qu'on va devoir observer aujourd'hui. Très important ce qui se passe du côté de la commission Galland. Je parlais à des gens en secret, là, à l'interne, qui travaillent près de cette commission-là. Et eux aussi s'attendent et espèrent qu'il y ait imputabilité, qu'il y ait possibilité de faire rendre plus que des comptes à ces gens-là. Mais ça reste une problématique de faire reconnaître le principal acteur négatif là-dedans. Il faut énormément de preuves, il faut énormément de gens qui parlent d'assurance dans le fait de savoir qui a causé ce fiasco monumental. Jusqu'à maintenant, on a l'impression que c'est comme un groupuscule de personnes qui travaillaient et probablement de l'incompétence généralisée. Là. Mais ça, c'est d'opinion, hein? C'est d'opinion politique. Il faut savoir aussi que M. Bonnardel a fait réagir d'autres personnes et peut-être qu'il va y avoir des relents aujourd'hui avec Mme Guilbeault. Il faut savoir que Mme Guilbeault, la semaine dernière, avait souligné qu'elle comptait participer aux travaux de la commission Galland avec beaucoup de transparence, collaboration. Elle dit « J'ai l'habitude d'offrir tout cela dans l'intérêt des contribuables du Québec ». Et il faut savoir qu'il y a elle, qu'il y a M. Bonnardel, mais aussi Laurent Lessard. Et ça, j'en parlais avec Véro Bergeron avant d'entrer en onde. On trouve que c'est super important de le souligner. Laurent Lessard, qui était là aussi, sous un autre gouvernement, mais bien implanté dans tout ce qui est fiasco ou projet informatique, si on le dit comme ça, la SAAQ. Et je pense qu'il va falloir remonter concrètement et farouchement parmi tous ceux qui y sont passés. Hey, aujourd'hui, à l'émission, entre autres, on va jaser avec Phil Lapéry, chroniqueur en vin, spécialiste, sommelier, tout ce que vous voulez. Un des plus dynamiques que j'ai connu il y a plusieurs années. Je commençais, en fait, ma carrière radio, que je collaborais avec Phil à Sainte-Marie-de-Beauce, puis c'était déjà un gars super apprécié. Plus besoin de présentation, mais je veux jaser avec lui de tout l'alcool qui sera détruite par la SAQ, plus de 300 000 $ en fait qu'on va jeter comme ça dans le lavabo, tiens. Et lui a dit, ben ça c'est une chose, mais il dit, la suite des choses est plus importante. Puis il n'a pas la langue dans sa poche, il y en a des choses à dire, on va le rejoindre dans les prochaines minutes. Manquez pas l'émission de l'RCV, manquez pas Marceau le midi qui va suivre tout de suite après. Je vous jure que c'est un beau vendredi d'actualité, puis on va faire ça dans le plaisir. Salut à tout le monde, merci pour vos commentaires. Quelqu'un qui dit, en parlant d'accident sur l'autoroute, je viens d'éviter un feu vert, d'éviter un cycliste sur un feu vert clignotant. Il m'a coupé. Manœuvre extrêmement dangereuse. Un peu plus et je le ramassais. Hey, pas drôle ça. Faites attention, honnêtement. Je sais que je veux pas avoir l'air moralisatrice, mais il y a quelque chose d'important là, qui se passe en ce moment dans toute cette collaboration-là. Automobiliste, cycliste, trottinette électrique, des triporteurs sur la piste cyclable. Ça vient franchement problématique. Va falloir sévir parce que j'ai l'impression qu'on peut même plus se fier au gros bon sens de tous et chacun. On en reparle dans un instant dans leur CV. On s'en va rejoindre Phil Lapéry. Restez là, Bob Bissonnette, Chantal Maccabée à Boulevard 102.1. On est de retour à l'émission Sous le soleil à l'extérieur, 22 degrés. Beaucoup de gens qui nous témoignent là, que c'est complexe sur les réseaux routiers en ce moment. Faites attention. Un vendredi peut-être où les gens ont décidé de ne pas aller travailler, d'extensionner le week-end doux. Il y en a qui se font des longs week-ends, puis c'est encore la saison estivale. Profitons-en. Le vin va être bon ce soir, va être bon en fin de semaine. On en trouve sur les tablettes de la SAQ. Et ça, ça fait notre bonheur. Par contre, il y a une nouvelle qui a fait un peu moins notre bonheur dans les dernières heures. Et c'est le moment où on a appris que pour 300 000 $ d'alcool, la SAQ va se départir de bouteilles américaines, va vider ça dans le lavabo, va casser ça, va brûler ça, peu importe. Mais au temps du bûcher, là, on va faire une grosse pile des vins américains puis on va y mettre le feu à la limite comme image. Et ça, c'était pour faire un genre de front à Donald Trump avec ses tarifs américains. L'affaire, c'est qu'on les avait payés déjà, ces bouteilles-là. C'était fait, c'était payé avec l'argent de la SAQ. Donc, l'argent de l'État, votre argent en tant que contribuable, et on voulait la rentabiliser, mais on a décidé d'enlever toutes ces bouteilles-là quand il y a eu le début de cette guerre commerciale-là avec Donald Trump. Il n'y a pas grand monde à qui je fais confiance pour nous parler de ce domaine-là, mais il y en a un que j'aime particulièrement et qui gratouille pas juste les meilleures bouteilles qu'on peut boire, mais aussi gratouille dans tout ce qui est l'engrenage de nos vins arrivés sur les tablettes. C'est Phil Lapéry, chroniqueur en vin, amoureux des vins, tout ce que vous voulez, spécialiste sommelier. Salut Phil!
Salut mon ami Pascal, tu vas bien?
Bien, ça va très bien. Je me rends compte que ça fait trop longtemps qu'on s'est vus. Ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on se connaît, puis on se croise une fois et là, dans des événements, entre autres, de vin. Phil, passez un bel été jusqu'à maintenant.
Je pense un été merveilleux. On se promène aux quatre coins du Québec. On court après les festivals puis les salons des vins qui sont de plus en plus nombreux. Il y en a des beaux qui s'en viennent. Mardi prochain, il y a le Salon des vins de Rivière-du-Loup, là, l'Auberge de la Pointe. Puis il y a Saint-Jean-Port-Joli qui s'en vient. Puis même le nouveau Salon des vins de Charlevoix, le 19 septembre. Donc, on a du vin sur la planche pour les prochaines semaines, mon ami Pascal.
Bien, ça, c'est le bonheur de l'entendre. Ce qui est moins de bonheur, justement, c'est cette nouvelle-là. Toi, tu l'as prise comment? T'as-tu trouvé ça niaiseux? T'as fait, oui, je comprends dans le contexte?
Ben c'est sûr que le titre frappe fort. Hein? La SAQ va détruire 300 000 $ de vin. Quand on va pas plus loin, on s'arrête là tout de suite. Ben on est fâché, on dit ça n'a pas de bon sens. Quand on fouille un peu plus, puis je te dirais que depuis 2 jours, ben j'éteins des feux. Évidemment, depuis hier matin, je pense que j'ai fait pas mal de tours de tous les médias de la ville de Québec, mais un peu partout au Québec aussi, pour essayer d'expliquer un peu plus ce qui se passe à ce propos-là. Je t'écoutais parler dans la dernière minute, puis c'est pas sans rappeler un peu la prohibition américaine 1919-1933, toute forme de consommation, de production. Ou de vente de vin était interdite, puis on a envoyé ça dans les égouts. Encore, on peut trouver des images là, d'il y a une centaine d'années où les gens fracassaient des bouteilles et des barriques pour envoyer ça dans des bouches d'égouts, puis ça crève le cœur.
Mais il t'a juste le bootlegger du côté de Charlevoix. Quand tu t'en vas là-bas fêter un peu, bien manger, bien boire, bien, ils te font justement visiter tout le labyrinthe de petites souris qui étaient cachées pour offrir aux gens une petite gorgée d'alcool.
En cachette, discrètement, oui, totalement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que est-ce que c'est ce 300 000-là qui fait peur? Parce que il y a deux choses là-dedans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que premièrement, je pense qu'il va y avoir des bonnes nouvelles dans les prochaines heures. Là, je veux dire, ça devrait pas être détruit. Ça n'a pas de bon sens d'envoyer dans le lavabo.
C'est déjà sorti, ce fil. T'sais, on dit que ça va être donné à des organismes, là, entre autres.
Puis des écoles hôtelières pour pratiquer des étudiants, futurs sommeliers, sommelières, serveurs, serveuses, à ouvrir des bouteilles. Faut comprendre que si on fouille un peu plus, on s'aperçoit que le 300 000, ben, c'est des vins rosés. Les fameux White Zinfandel américains qui sont parmi les vins les plus vendus au monde. C'est pas des vins qui ont des grandes acidités. Donc, qui dit pas d'acidité, pas ou grande acidité, égale pas de vieillissement ou très peu de vieillissement en cave. Des vignées, des prêts à boire, des crèmes, des liqueurs, certaines bières. Oubliez pas une bière, là. L'ennemi juré d'une bière, c'est la lumière et la chaleur. Et les entrepôts de la SAQ ne sont pas réfrigérés. C'est pas une cave à vin immense, l'entrepôt de la SAQ. C'est pas un endroit qui est fait pour garder une bouteille avec des bonnes conditions de conservation. Il a fait 25-30 degrés, on a eu une canicule tout l'été. Fait qu'imaginez-vous ces bouteilles-là, depuis le 4 mars dernier, dans 2 semaines, Pascal, ça va faire 6 mois, qu'il y a 27 millions de dollars d'alcool américain qui sont à l'entrepôt de Montréal et à l'entrepôt de la SAQ de Québec et de Montréal. Ça, c'est du 25 degrés, debout dans des caisses. Debout égale pas de contact avec le liège quand c'est une bouteille avec un liège. Donc, ce qui fait que le vin se détériore. T'sais, prenez exemple pour un fruit. Laissez un fruit 2-3 semaines sur votre comptoir, puis revenez après 2-3 semaines de vacances. Le fruit va être détérioré. Ben, le vin, avec la chaleur, avec la lumière, va se détériorer, va s'oxyder tout doucement. Le bouchon va sécher, l'air va s'infiltrer. Ça va créer une oxydation naturelle. Donc, c'est pas le 300 000 qui fait peur présentement de vin rosé puis de vignier. C'est la suite des choses. Parce qu'oubliez pas une chose. Les États, les Américains, 90% de la production, c'est la Californie au niveau du vin, mais il y a l'Oregon, il y a l'État de Washington, la Virginie, l'État de New York aussi qui fait beaucoup de vin. Et il fait pas juste, ils font pas juste des piquettes squelettiques, commerciales, sucrées, boisées. Il y a des très grands vins qui se font dans le Golden State américain ou même en Oregon, qui est l'État juste au nord de ça. Et il y a des cuvées de haut de gamme présentement. On peut penser à, je sais pas, du Dominus, du Opus One, des grandes cuvées de Robert Mondavi à 100, 150, 200 $ la bouteille qui sont présentement debout dans une boîte de carton à 20, 25 degrés. Parce que j'ai parlé avec la porte-parole de la SAQ, là. Je vous amène pas des trucs en l'air comme ça. Là.
Mais là, c'est le monopole. Ils ont le monopole de l'alcool au Québec, puis ils sont pas capables de prendre soin de tout ce qu'ils ont à prendre soin, soit l'alcool. C'est ça qu'on comprend.
C'est pas un endroit. C'est un endroit de stockage pour un passage rapide de l'entrepôt de la SAQ, qui par la suite se retrouve sur une des 409 succursales du Québec, qui par la suite se retrouve dans votre cellier ou dans votre gosier. Fait que, en quelque part, c'est pas un endroit qui a été fait avec, exemple, une cave à vin doit être à entre 12 12 et 15 degrés, d'avoir une humidité de 60 à 75 % pour garder la bouteille avec des conditions optimales de vieillissement. Ben, l'entrepôt de la SAQ, c'est pas le mandat, c'est pas une place pour garder du vin. Fait que, puis, oubliez pas une chose. Hier matin, j'ai mis ça sur ma page Facebook en disant, je vais parler, exemple, avec Mario Dumont puis des gens de différents médias, Radio-Can, TVA, dans les prochaines heures. Et là, les gens se sont mis à attaquer la SAQ de tout bord, tout côté. Hey, c'est pas. Le 4 mars 2025, il y a 6 mois, là, pensez-vous vraiment que c'est la SAQ qui a collé la shot en disant, hey, on va enlever les vins américains puis les alcools américains et ces tablettes? Ça n'a rien à voir. C'est le gouvernement Legault, c'est la CAQ qui a levé la main pour enlever ça un peu comme ils l'ont fait au LCBO ou même les autres provinces canadiennes. Ça n'a rien à voir avec la SAQ. La SAQ a même essayé de ravoir ces bouteilles-là pour les mettre ces tablettes. Imaginez les pertes énormes, là. Si on se rend jusqu'en mars prochain, là, puis encore des bouteilles haut de gamme des entrepôts ouais. de la SAQ, ça va faire un an que les bouteilles sèchent debout à chaleur d'un entrepôt. Ces bouteilles-là, pour la plupart, ils vont être tournées au vinaigre.
OK, mais là, Phil, je t'écoute, là, toi, t'es spectaculaire en ce moment. Les gens nous écrivent au 88-971-1021. Mais j'ai presque peur que la SAQ, donc le gouvernement de la CAQ en ce moment qui régit la SAQ, nous les serve quand même sur les tablettes, si jamais ça a à revenir, le fait qu'on ait ces vins-là sur nos tablettes, bien qu'ils ne soient pas à leur summum, qu'on les ait pas bien entreposés, qu'on n'en ait pas pris soin finalement, et qu'on paie le prix pour une bouteille qui ne soit pas à sa juste valeur en termes de goût. As-tu l'impression qu'on va nous les passer quand même ou on va encore avoir des pertes monumentales pour la suite?
Si ça dépasse l'automne ou, mettons, Noël, donc un autre 3 à 4 mois encore, il va falloir, comme ils font souvent avec des rabais, des fois, on rentre dans un SAQ puis il y a un 25 ou un 40 % de rabais sur une bouteille. Exemple, les Beaujolais nouveaux, qui sont beaucoup moins à la mode qu'ils l'étaient. Rendu à Noël, là, le 3e jeudi novembre, sortent les Beaujolais nouveaux. 2 mois après, c'est pas un vin qui est bâti pour la garde. Donc, il faut les écouler. Donc, est-ce que, si on dépasse Noël, il va falloir qu'il y ait une vente de feu qui se fasse? Parce que tu me demanderas pas le même prix pour un cabernet de la Californie à, exemple, 30 $ si ça fait 8 mois qu'il est dans un entrepôt, la bouteille ouverte.
Mais je comprends là, le fait qu'ils peuvent pas faire ça, mais t'as-tu l'impression qu'ils pourraient le faire quand même?
Ben, on va le voir, mais ils vont avoir beaucoup de retours à ce moment-là. Mmh. Parce qu'aussitôt qu'une bouteille est pas en bon état, oxydée, bouchonnée ou whatever, on peut la ramener avec la facture, même si la loi a changé quelque peu. Puis ça, la SAQ veut pas avoir de retour, ou le moins possible, du moins. Donc, tu sais, ça va être à eux. C'est à eux présentement, puis c'est pas la SAQ. Une fois de plus, on met ça dans le cours du gouvernement, là. François Legault, la CAQ, c'est à vous de faire un move pour pas engendrer des pertes de 27 millions. Oubliez pas, ces bouteilles-là sont déjà payées. C'est pas les producteurs californiens ou puis américains qui les payent. Là.
J'ai demandé à Yannick Marceau dans Marceau Midi hier soir au moins 3-4 fois, t'es-tu sûr qu'elles sont payées? Parce que pour moi, à la base, même si on va les donner finalement et tout ça, puis en passant, on va les donner parce qu'on s'est insurgé dans les médias, on s'est insurgé en tant que citoyen de l'État qui finance justement la SAQ. Même si vous buvez pas, il y a de l'argent de vos taxes impôts qui s'en vont là, mais j'arrêtais pas de marteler. Est-ce que ça a été payé? Donc, on est en train de détruire ce qu'on a payé.
Dites-vous que chaque chose que j'amène, moi, depuis hier, dans toute la tournée de médias que j'ai fait, je m'assure tout le temps de parler avec Linda Bouchard, qui est la porte-parole de la SAQ, pour pas amener des mauvaises informations aux consommateurs. Donc, les chiffres que je vous donne, les 27 millions et compagnie, tout a été, tu sais, de savoir que l'entrepôt de la SAQ n'est pas un endroit qui est réfrigéré. Il y a probablement une climatisation, là, à 21, 22 degrés.
Le minimum, mais...
C'est ça. C'est pas un cellier avec 12 degrés en cave et 75 % d'humidité pour que le bouchon reste en bon état. Ça n'a rien à voir, mais je le répète, c'est pas leur job non plus de faire un... Puis imaginez là, combien ça peut, en niveau du stockage, d'avoir 27 millions de dollars de vin. Comment c'est énorme, comment ça peut prendre de place. C'est pas fait pour ça. Donc, tu sais, il va falloir qu'il y a une patate chaude présentement. Il va falloir que ça bouge dans les prochaines semaines. Puis je pense qu'hier, Radio-Canada, qui était vraiment ouvert le bal, puis TVA a suivi, on a kické le nid de guêpe solide. Là. On a brossé la soupe. Puis là, présentement, il y a des gens qui vont faire des moves. Fait que c'est aux politiciens de dire qu'est-ce qu'on fait avec ça.
Mais c'est encore pas drôle. C'est encore pas drôle que ça prenne des commentateurs comme toi qui connaît le domaine en tant que sommelier amoureux du vin, qui s'en va dans les médias pour en jaser, qui nous font comprendre l'envers du décor. Nous autres qui s'attardent à ça, les gens qui nous écrivent au 88-971-1021 ou encore sur Twitch, parce que moi, je disais que c'est de la sélection naturelle de gestionnaires hier. Ceux qui ont pris la décision de les détruire pour faire un genre de pied de nez à Donald Trump, moi, je les mettrais dehors parce que clairement, ils n'ont pas de réflexion. Et puis là, c'est un peu sadique. Professionnellement parlant, mais à un moment donné, c'est exécrable comme décision, là.
Puis imagines-tu comment on pourrait nourrir des gens dans le besoin?
Mais oui.
Des bonnes causes comme l'Aube-Rivière, puis des gens qui en ont besoin, de dire, OK, il y a 300 000 de produits, on laisse aller ça pour 150 000. Il y a quelqu'un à quelque part qui va lever la main pour donner des sous, pour acheter ça, pour remettre ça à une cause.
Oui.
Au moins, on aiderait des gens au lieu de faire mettre ça dans le chemin du lavabo.
Je comprends vraiment pas certaines décisions gouvernementales. Ouais. Hey Phil, ça a été un bonheur de t'avoir à l'émission. Certains proposent qu'on passe les bouteilles qui risquent d'être périmées ou vraiment moins bonnes pour la suite dans les soirées de ministres officiels, dans les soupers des ministres où on apprend des fois que les prix font pas de sens, puis qu'on boit, puis on se remplit le gosier avec de grandes bouteilles, pourquoi pas celles dont tu parles qui ont été semi-entreposées. Il y a des gens qui font des jokes là-dessus. Mais là, pour cet été, Phil, on peut pas te laisser passer, je pense, sans te demander ton grand coup de cœur. Pour cet été, tu nous conseilles quoi? Tu as quelque chose dans le québécois là, où on peut aider nos gens ici?
Totalement. Refaites retomber en amour votre amoureux, votre amoureuse, en l'amenant à l'île d'Orléans, que ce soit au vignoble de l'île de Bacchus, que ce soit au vignoble Saint-Pétronille, domaine du Mitan, le Saint-Pierre, il y a plein de beaux domaines. Puis l'île d'Orléans est à quoi? 15 minutes du centre-ville de Québec.
Ouais.
C'est une des plus belles, les places les plus romantiques qu'il n'y a pas au Québec. Puis j'en profite pour te dire qu'on va se reparler en octobre parce que j'ai mon 11e bouquin qui va paraître. On va avoir un lancement au Centre Vidéotron. Ça va être fourré de ma belle amie.
J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Phil, merci pour tout. C'est tout le temps un bonheur de te parler, puis j'ai hâte de te recroiser.
Salut, bon week-end à toi.
Salut. Phil Lapéry, vous pouvez suivre bien partout sur ses réseaux sociaux. Il est super actif. Il va sortir un nouveau livre, il vient d'en parler. Tous ses anciens livres aussi sont disponibles et encore très intéressants. En vente partout, mais surtout, c'est tout le fun d'avoir un vulgarisateur qui n'a pas la langue dans sa poche puis qui nous apprend littéralement ce qui se passe en arrière. Il n'est pas vendu à personne, lui, il est juste vendu au vin. Puis ça, on aime ça. Hey, leur CV, c'est Sarah Dufour. Ciao, bye! Dans leur CV, on revient dans un instant. Merci d'être bien présent.
C'est plus facile.
Ouais, ben là, je suis vraiment, vraiment bien accompagnée. J'ai les deux hommes des nouvelles, les deux hommes que vous aimez du matin, Max Larouche puis Mathias, qui sont avec moi en studio. Bien sûr, Mathias, il est là pour frapper en relève. Depuis le début de leur CV, toi, tu t'es dit, je vais venir faire un tour,
oui.
Le passe. Je vais venir te voir pour un bulletin de nouvelles. Je te laisserai pas parler toute seule, bien qu'on sache qu'on parle pas seul parce que les auditeurs sont toujours bien présents. Mathias, encore une grosse journée d'actualité en ce vendredi, là. Ça fuse de partout, entre autres Geneviève Guilbeault, qui est attendue d'une minute à l'autre à la commission Galant pour témoigner.
Oui, exactement. Je vais commencer en rappelant hier que François Bonnardel a fait son témoignage. Il a continué à marteler le fait qu'il refuse d'assumer la responsabilité des ratés du virage numérique. Il dit que blâme réside du côté de quelques personnes à la SAAC. Je vais le citer. Il a dit « Mon indice de bullshit est assez fort et je me rends compte aujourd'hui que quelques personnes ont réussi de façon honteuse à donner des informations inadéquates pour qu'on ne soit pas capable de voir le portrait réel de la situation. » Pourtant, M. Bonnardel avait été informé, puis ça on dit, là. En février 2021, le ministre est informé que le montant officiel est de 682 millions au lieu de 438 millions, en raison donc de doutes sur l'explosion des coûts du projet. Et pour donner suite à l'évolution des chiffres, il organise une rencontre. À cette rencontre, la SAAC est présente, la directrice de cabinet du ministre Éric Kerr, le patron de l'informatique du gouvernement, ainsi que bien sûr François Bonnardel, c'est lui qui a organisé cette rencontre-là. Aucune trace écrite de cette rencontre n'existe. Et le ministre a aucune mémoire de ce qui s'est dit durant cette rencontre-là, qu'il a lui-même ordonné, permets-moi d'en douter, aujourd'hui.
Pour lui, il dit qu'on n'a pas dévoilé les vrais coûts du projet. Donc, son cabinet ne lui a pas donné les bonnes informations. C'était incomplet et tout ça. Il se défend comme ça.
Ouais,
il avait l'air stressé, honnêtement, hier. Moi, je suis une grande fan de la commission Charbonneau, comme dirait Véronique Bergeron. Probablement, j'écoute ça pour m'endormir. Et moi, j'ai adoré cet exercice-là. Extrêmement déçu de la suite des choses, par exemple. Commission de Régine Laurent aussi pour la DPJ. Je suivais ça avec attention. Je trouve qu'on a souvent de bonnes recommandations, mais il ne se passe rien. J'ai hâte de voir avec la commission Galant. Aujourd'hui, on le disait, Geneviève Guilbeault va témoigner. Elle se disait prête à être extrêmement transparente, comme elle l'a toujours été, selon ses dires.
Oui. On attend ça avec impatience. Qu'est-ce que Geneviève Guilbeault savait? C'est quoi son rôle qu'elle a joué? On va découvrir ça aujourd'hui normalement. Je reviens sur le procès des 5 anciens joueurs d'équipe Canada junior qui ont été acquittés. Donc, Alex Formanton, Michael McLeod, Carter Hart, Dylan Dubé et Callan Foote qui ont été acquittés justement d'agressions sexuelles, eh bien, ça a été annoncé que la couronne ne ferait pas appel à la décision.
Dossier clos pour la couronne.
La décision est finale. On rappelle la juge Maria Carrottia qui avait été quand même raide dans son dans sa conclusion par rapport au témoignage de la plaignante. On avait dit qu'il était ni crédible ni fiable. Tout ça, ça avait ramené au grand jour tout le débat par rapport à
le consentement
sexuel.
Le genre de petit spectre étrange sur la culture sexuelle au sein de Hockey Canada aussi, qui est revenu dans l'actualité avec ce cas-là, en fait, ce passage en cours-là. Peut-être en terminant, mon Mathias?
Oui, je termine avec le rapport sur la transparence fiscale à la pompe de la Fédération canadienne des contribuables qui est sorti aujourd'hui. On nous apprend là-dedans que présentement, 38% de notre facture d'essence, c'est des taxes. Donc, 38%, c'est énorme. Là. Puis oui, il y a la taxe carbone là-dedans, mais c'est pas juste ça. C'est que présentement, notre essence est taxée avec 5 taxes différentes. La TPS, la TVQ, la taxe d'accise fédérale, la taxe provinciale sur les carburants et la taxe carbone. Donc, c'est énorme. 38% du plein présentement. Et du côté de la Fédération canadienne des contribuables, ce qu'on nous dit, c'est que d'ici 2030, d'ici 5 ans, ça pourrait être la moitié de la facture qui sont des taxes, si les prédictions, justement, de la Fédération s'avèrent vraies.
On va en parler avec Nicolas Gagnon tantôt dans Marceau le midi, 11h30. Manquez pas ça. Nicolas, de la Fédération canadienne des contribuables, qui suit ça avec autant d'intérêt que n'importe qui suit l'actualité ici autour de la table. Merci, Mathias. Bon week-end.
Ça fait plaisir. Bonne fin de semaine.
On te retrouve lundi. Dans l'émission du matin. Air Canada a annoncé aussi qu'on va continuer à essayer de dédommager le plus possible les clients, donc entre autres les frais d'hébergement, les repas des voyageurs affectés par la grève des agents de bord, également tout ce qui est entre le 15 août et le 23 août en termes de vol de remplacement, ce sera remboursé. On essaie de ramasser les pots cassés et de les recoller. Assez complexe ce qui se passe du côté d'Air Canada et Air Canada Rouge, mais on le suit pour vous. J'ai fait venir notre collègue Maxime Larouche en ce vendredi, prêt à partir pour son week-end, mais quand même, il a fait du temps supplémentaire avec nous. Qu'est-ce que t'as déniché comme petite perle, Max?
C'est le genre de perle, Pascal, qui va faire ton vendredi, qui va faire ton week-end. Je connais ton amour pour les chansons politiques, les jingles politiques à l'approche d'élections.
Là, il y en a un nouveau qui est sorti?
Non, c'est ça l'affaire.
OK.
C'est qu'il est sorti pas longtemps. Il a été supprimé vite. Mais je suis toujours là, à l'affût, et je me disais, ça, c'est le genre d'affaires qu'ils vont supprimer.
Qui a sorti ça? Là, Maxime Bernier en a déjà un, il n'est plus en politique, mais il nous écrit 150 fois par jour avec ses courriels à ses membres. C'est correct, je dis ça parce que nous, on les suit avec beaucoup d'intérêt, toi et moi. Ensuite, on avait le Bloc québécois avec Le Québec, c'est nous, et François Blanchet qui allait de l'avant avec une chanson écrite, entre autres, par Éric Lapointe.
Il y a les libéraux dans le temps avec la toune des Strumbellas, « Levin my oat, border my », puis on ne comprenait pas vraiment ce qu'il disait.
Tout ça pour Justin Trudeau.
Mais là, c'est la gang de Sam Ahmad, Leadership Québec,
non,
qui ce matin nous est arrivé avec un... Ouais, mais l'affaire, c'est que... Puis je vends le punch tout de suite parce que c'est pas long qu'on s'en rend compte, là. C'est fait avec l'intelligence artificielle.
Mais là, c'est-tu quelqu'un qui le fait pour eux ou c'est vraiment un choix de Leadership Québec d'avancer un jingle?
La réponse qu'on a eue en contactant le parti après la suppression de la vidéo, là, où c'était, dans le fond, pour vous imaginer un peu, là, c'était une vidéo Facebook, puis je suis tombé là-dessus ce matin pendant le show, puis j'ai dit « OK, on se dépêche à aller en onde avec ça parce que c'est du gâteau ». C'était une vidéo où on voyait les candidats, puis là, c'est une chanson d'espoir. Okay. Ce qu'on nous a dit, tout simplement, c'est qu'on avait supprimé la vidéo parce qu'elle n'avait pas été approuvée par le parti. C'est ce qu'on nous a dit.
Ça en dit beaucoup sur qui.
Mais là, la qualité, je m'excuse, n'est pas optimale. J'ai fait de mon mieux avec une vidéo qui était supprimée et tout ça. Là.
Toi, dans le fond, tu t'es dit, ça ne sera pas supprimé. On va leur passer
non,
dans leur CV
ça.
Au minimum.
C'est supprimé sur le Facebook de Leadership Québec. Mais à Boulevard 102, cette toune-là existe encore.
Va rester à vie. C'est une leçon du web ce matin.
On peut l'écouter un peu, puis on essaiera de trouver un titre si on le veut bien ensemble. Fait que la toune
de... Ah, parce
qu'on n'avait pas. Ben non, c'est ça. C'était comme un texte, un long texte d'espoir, puis dire qu'on est donc ben bon, puis qu'on est là pour les citoyens.
Puis on sait pas qui a fait ça.
Ben, c'est l'intelligence artificielle.
Ouais, mais sous le joug de qui, là?
Ouais, c'est
Marcel qui a décidé ça dans son fond tout seul parce qu'il veut donc que Leadership Québec passe aux prochaines élections municipales.
Ben, c'est en tout cas, c'était sur le site officiel du parti, fait que j'espère. Ouais, c'était sa page Facebook du parti. C'est ça l'affaire.
OK,
là.
L'information était vraiment importante. Bah, on va écouter ça, on va écouter ça.
Le jour se lève, Québec s'éveille, un nouveau rêve. Leadership Québec, l'espoir. Pour
un avenir radieux.
Non.
Elle m'a déjà pogné dans la tête.
Mathias qui danse. Là, on s'excuse pour la qualité. Max est allé rechercher quelque chose qui était supprimé initialement de leur part.
Ensemble, on bâtit une vie plus forte, des idées nouvelles.
Ouh.
Une foi qui monte
pour une vie
meilleure, une énergie nouvelle. Travaillons main dans la main pour une victoire réelle. Leadership Québec, Master l'avenir, un avenir brillant.
Vivement le retour d'Infoman.
L'espoir est en nous, le changement est là. Pour une ville unie, on ouvre la voie. Ouvrons les yeux, regardons plus haut.
Yeah.
Pour une ville en fleurs, un avenir sans doute. Leadership Québec, le chemin est tracé. Pour une ville vibrante, une ville embrassée. We're launching
NSYNC, intelligence artificielle?
Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont écrit comme... Il y a des sites qui existent où tu peux écrire, OK, écris une chanson pour le Parti politique Leadership Québec avec un ambiance d'espoir ensoleillé, tu sais, c'est ça.
Ouais. Là, clairement, c'était joyeux du soleil,
ouais.
On est en nous. Là.
Et l'espoir et l'avenir radieux.
Leadership Québec.
Vous allez l'avoir dans la tête, vous jure.
C'est long, là.
Ben, c'est une vraie tour.
Quelqu'un qui nous rappelle que sa maman avait fait le commentaire comme quoi l'intelligence artificielle était basée sur le passé. Il y en a qui font des petites jokes par rapport à ça.
Mais bonne chance pour trouver une meilleure pépite aujourd'hui.
Oh, wow! Merci beaucoup, Max Larouche.
Plaisir.
Un bonheur de t'avoir accueilli que pour ça à l'émission. Je te donne un défi, c'est de l'écouter assez en fin de semaine pour la savoir presque par cœur.
Je la sais déjà quasiment par cœur.
Comme ça, on va être capable de la ramener au même titre que... Le Québec, c'est nous. Le jingle de Maxime Bernier et tout ça.
Une main haute pour demain, une main haute pour toi.
Puis il y a un petit quelque chose à l'oreille qui me dit qu'on va s'amuser, toi et moi, cet automne. Je dis ça, puis je dis rien. Mais
oh.
D'après moi, on va s'amuser avec nos choses préférées.
Tu m'invites à souper?
Non.
C'est ça que tu veux dire?
Non, ça va encore attendre. Hey, mais, bon week-end, Max.
Yes,
merci,
bye là-dessus. Bye. Là. Bye.
CD avec Pascal CD.
Ça a passé comme un coup de vent aujourd'hui, l'émission. L'heure CV, c'est une heure, puis on a presque terminé ensemble. Par contre, j'ai gardé une entrevue que je souhaitais faire, là, et je vais vous le dire, ça a été un revirement de situation pour la fin de l'émission, parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit non, il faut que je change certaines affaires, il faut que je book absolument cette chroniqueuse-là au soleil qui a fait... Moi, je pense que c'est une bombe dans l'actualité. Je vais vous expliquer pourquoi. Je suis des groupes profondément étranges parfois sur Facebook pour m'alimenter en information, voir c'est quoi le pouls de la population, de quoi les gens jasent, de quoi les gens que je ne côtoie pas jasent. Ça, c'est important. Je ne veux pas rester dans ma petite sphère de verre là, avec les gens qui pensent comme moi. Oh, que non! Entre autres pour ça que je travaille avec Yannick Marceau depuis 2 ans. Non, mais j'aime ça quand vous m'alimentez. Peu importe votre secteur, je vais toujours vous écouter. Et il y a une de ces pages sombres que je suis. Je donnerai pas le nom complet de la page. Pour moi, ça ne vaut pas la peine, mais c'est une page qui est complètement contre la DPJ. Des gens qui s'en prennent aux intervenants, qui ont des choses à dire, qui pensent qu'ils ont été maltraités en tant que parents par rapport à la gestion que le directeur de tout ce qui se passe au niveau de la DPJ fait, puis la façon dont ça se fait. Pardonnez-moi, il y a un petit retour de son dans mes écouteurs. Voilà, c'est réglé. Ça attire beaucoup mon attention parce que je me dis, oui, c'est sûr qu'il y a des cas, des fois, qui ne doivent pas être parfaits, mais en même temps, la mission de la DPJ, c'est de protéger les enfants. Des fois, la structure est épouvantable. On a eu la commission Laurent, Régine Laurent, qui en a fait état, qui a eu des recommandations qui n'ont pas été retenues, qui n'ont pas été tenues aussi. On l'a vu, rappelez-vous, dans un podcast avec François Legault également, parler de ça. François Legault semblait presque mal. Dans le fameux podcast de François Legault, là, que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un épisode, il avait l'air presque mal parce qu'elle lui rentrait dedans, littéralement parlant en politique. Là. Elle lui rentrait dedans, puis elle essayait de lui faire comprendre à quel point c'était criant dans le domaine de la DPJ d'aller faire un genre de ménage. Et dans ce groupe sombre, il y a parfois des gens qui sont près du complot et qui écrivent « Oui, mais on le sait bien, les intervenants ont des primes, ont des bonnies si jamais ils sortent les enfants des familles parce que les familles qui adopte officiellement ces enfants-là pour la suite des choses, paie de gros montants. Et ça dérape souvent. Ce matin dans le soleil, cette chroniqueur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Mylène Moisan, très près des gens, qui va aller farfouiller justement ce genre de dossier-là, a écrit, et je cite le titre, « Des médecins payés pour signaler à la DPJ ». On la reçoit dans leur CV, elle est au bout du fil. Bonjour Mylène Moisan.
Bonjour Pascal.
Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour jaser de ça. D'abord et avant tout, le titre en dit beaucoup. Peux-tu revenir à l'essence même du pourquoi cette chronique-là ce matin?
Oui, bien en fait, comme tu le disais d'entrée de jeu, moi, cette information-là m'est parvenue de plusieurs sources, des personnes qui travaillent à la DPJ, une avocate, mais également de certains parents là, qui alimentent là, ces groupes-là qui ont beaucoup de problèmes avec la DPJ ou qui ont beaucoup de critiques avec la DPJ. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui vient confirmer ce que certains parents pensent là, qu'effectivement, il y a tout un aspect là, de paiement, une espèce de certains vont jusqu'au trafic d'enfants, donc ils vont très, très loin. Et ce genre d'informations-là, le fait que les médecins spécialistes là, reçoivent là, un tarif là, pour l'acte de signaler à la DPJ, évidemment, ça leur donne un argument là, dans leur idée. Cela dit, c'est effectivement réel. Donc, depuis longtemps, en fait, il y avait les psychiatres et les médecins spécialistes en urgence qui recevaient historiquement. J'ai pas su pourquoi à l'origine, là, ça doit être issu d'une négociation entre les spécialistes et le gouvernement. Donc, les psychiatres et les médecins spécialistes recevaient de l'argent pour signaler à la DPJ. Et depuis novembre 2023, donc à la suite d'une autre négociation, cet acte-là a été étendu à l'ensemble des médecins spécialistes au Québec. Donc, présentement, tous les médecins spécialistes qui signalent à la DPJ peuvent facturer 200 $ s'ils sont publics et 240 s'ils sont privés.
Là, on parle d'une évaluation qui mène à un signalement, justement, au niveau de la DPJ pour un enfant qui doit être sorti de son milieu familial. Est-ce qu'on a une question morale, éthique à se poser à ce niveau-là? Bien sûr, bon, le médecin travaille, donc il doit être rémunéré pour ça. Mais là, de ce que je comprends, c'est un chèque de plus qu'il reçoit.
Oui, en fait, c'est pour le signalement en soi. C'est pas lié à l'évaluation, c'est vraiment pour faire le signalement. Et ça s'applique pas aux médecins omnipatriciens. Donc, les médecins de famille là, ne touchent pas ce montant-là lorsqu'ils signalent à la DPJ. C'est uniquement les spécialistes. Et on pourrait aussi étendre. Les professeurs ne sont pas rémunérés pour signaler à la DPJ, les policiers non plus, les travailleurs sociaux non plus. Donc, ça pose déjà, en partant, un problème d'équité. Donc, j'ai cherché des équivalents ou d'autres paiements, d'autres tarifs là, pour des actes médicaux. J'ai trouvé, par exemple, mettons, si un médecin de famille fait l'évaluation complète d'une personne dans un CHSLD, on s'entend que c'est quelque chose qui prend quand même du temps, c'est 86,90 $. Donc, c'est moins que la moitié que reçoit un spécialiste là, pour signaler à la DPJ. Donc, c'est quand même un montant qui est assez important. J'ai fait faire les chiffres aussi par la RAMQ. Donc, il y a eu 7 600 signalements qui ont été remboursés à des spécialistes depuis 5 ans. Ça représente 1,7 million de dollars quand même là, pour le Trésor québécois. C'est quand même une bonne somme d'argent. Là.
Comment est-ce qu'on explique, parce que sûrement que Mylène, t'es allée de l'autre côté ou t'as tenté du moins d'aller de l'autre côté, comment on explique de donner un boni à des médecins de ce type-là là, pour un signalement à la DPJ?
Je ne sais pas à l'origine comment les psychiatres et les médecins spécialistes en médecine d'urgence avaient obtenu cet acte médical ou cet acte remboursé à la RAMQ. C'est probablement parce que, évidemment, on sait que les médecins sont payés à l'acte. Donc, dans chaque négociation, de part et d'autre, on demande des choses. Donc, je présume que les psychiatres et les médecins d'urgence avaient demandé qu'on les paie pour faire un signalement à la DPJ et visiblement, ça leur a été accordé. Et en novembre 2023, ils ont demandé, donc ils ont renégocié, je pense que c'est la lettre numéro 72 qui a été renégociée et ils ont inclus là, l'élargissement à l'ensemble des spécialistes là, pour toucher ce montant. Donc, c'est vraiment beaucoup parce que c'est les orthopédistes, c'est tous les médecins spécialistes là, au Québec là, qui peuvent toucher cette somme-là.
Mais c'est pas drôle parce que quand je lis le texte écrit sous ta plume là, dans le soleil, on voit quand même que c'est une bonne somme. La Régie de l'assurance maladie du Québec a décaissé 1,7 million de $ depuis 5 ans pour des signalements fait à la DPJ par des médecins spécialistes. Ça coûte 200-240 $ à chaque fois. Puis plus tard, on lit aussi dans le texte qu'il y a un guide qui a été publié en 2024 par le ministère où on lit que dans le cadre de leur travail, faire ce genre de signalement-là, c'est une obligation. Donc, pour les professionnels qui travaillent auprès des enfants, des employés des établissements du réseau de la santé, les services sociaux, les enseignants, les personnes qui œuvrent dans un milieu de garde, les policiers, c'est une obligation, mais sans rétribution. Et tu l'as très bien mise en place au début de notre entretien. Mais il y a cette exception pour les médecins spécialistes. Moi, aussitôt que j'ai lu ta chronique aujourd'hui, Mylène, je me suis dit, merde, ça va alimenter ces gens qui disent, ben, ils viennent dans nos familles, ils nous enlèvent les enfants parce qu'ils ont une prime financière. Et clairement, pour ces médecins-là, spécialistes et psychiatres, il y en a une. Est-ce que je vais trop loin à te demander, puisque tu as fouillé là-dedans, puis tu es là-dedans depuis quelques jours, quelques semaines déjà, si on a une question éthique et morale à se poser, puisque ça concerne des enfants, un traitement aux enfants également?
Bien, je pense que ça envoie un message qui est très préoccupant, parce qu'effectivement, le fait qu'il y ait une rétribution, ça vient instiller un doute, parce que qu'on fait un signalement de façon gratuite, un peu dans l'esprit du bon samaritain, on imagine que l'intention est pure ou moins noble. Mais quand il y a un montant d'argent qui est associé, ça ne veut pas dire que tous les médecins spécialistes arrondissent leur fin de mois en faisant des signalements à la DPJ. Puis il y en a peut-être aussi des médecins spécialistes qui ne facturent pas à la RAMQ parce qu'ils trouvent que, justement, ça doit être un geste gratuit. Mais reste que quand quelqu'un reçoit un montant d'argent pour faire un signalement à la DPJ, il y a quelque chose de très troublant, à mon avis, parce que ça devient un geste payé. Ça devient un geste payé par l'État, en plus, pour signaler à l'État. Donc, je trouve que ça vient mettre en doute l'espèce de processus qui est quand même très important. C'est le point de départ. Le signalement, c'est vraiment le point de départ de toute la chaîne des actions qui peuvent mener justement au retrait d'un enfant. Donc, si on n'est pas certain des intentions de la personne qui fait le signalement au point de départ, ben ça vient un peu brouiller toute la suite, là.
Ah oui, puis ça m'inquiète parce que justement, je veux pas qu'on alimente, j'espère et je croise les doigts qu'on alimente pas justement ces soupçons, que ce soit un genre d'organisation pour faire de l'argent où on va chercher des enfants dans des familles pour les vendre à des familles qui ne sont pas capables d'avoir des enfants. Ça se jase auprès de gens qui ont toute leur tête aussi, mais qui sont affolés de voir la DPJ arriver dans leur dossier familial. Puis on a tous une définition différente de la maltraitance pour les enfants puis leur développement. T'sais. Pour certains parents, selon d'où ils viennent, s'occuper d'un enfant, c'est très différent de d'autres parents. Mm-hmm. Puis le minimum est très différent. Nous, on a décidé avec la DPJ d'instaurer un minimum, puis d'avoir aussi une réglementation là-dedans, puis d'avoir un suivi. On est un pays dans l'Occident, au Canada, puis on a une province qui souhaite traiter ses enfants d'une manière, mais il y avait beaucoup de lacunes aussi qui ont été exposées par Régine Laurent au courant des dernières années. Et quand on voit ce genre de dossier-là, mêlé à tout ce qui est arrivé en justice, entre autres, avec des enfants maltraités qui finalement en sont décédés entre les mains de leurs parents, ça vient un genre de brouillon incompréhensible et très difficile à gérer dans l'opinion. Puis je pense que ça peut créer des problématiques très criantes et aussi des critiques criantes face à une organisation qui est là initialement pour nos jeunes, qui est clairement pas parfaite. On a des changements à faire, mais ça ne devrait pas exister selon moi.
Bien, effectivement, parce que moi, ça fait une dizaine d'années là, quand même que j'écris sur la DPJ. Puis on voit quand même des fois des cas là, d'enfants retirés là, à 36 heures, à 48 heures, pour parfois sous de faux prétextes. Là, j'ai écrit d'ailleurs il y a près d'un an environ, un enfant qui avait été retiré et l'intervenante avait dit que le milieu de vie était pas adéquat pour l'enfant, mais finalement, la mère a porté plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et finalement, il a été démontré que l'intervenante n'était jamais allée visiter le domicile de la mère. Donc ça, c'est des choses que je vois, c'est des choses qui se produisent et qui alimentent aussi toute cette méfiance-là envers le système. Il n'y a pas beaucoup de recours aussi pour les parents. Donc c'est pour ça que les parents qui se sentent lésés souvent vont aller vers ce genre de canaux-là de réseaux sociaux parce que les chiens de garde, là, entre les 6 000 chiens de garde qu'on a, qui sont le protecteur du citoyen et la Commission des droits des personnes de la jeunesse, ben ils n'ont pas vraiment de prise là, sur la DPJ. Le seul rempart qui est à peu près efficace, ce sont les tribunaux, mais encore là, les parents doivent poursuivre, payer un avocat. Donc, c'est un système qui est très difficile et qui vit très mal, qui gère très mal les erreurs ou les cas, mettons, de mauvaise foi ou des enfants sont injustement retirés parce qu'il y en a. Donc, c'est tout ça qui... C'est un gros, gros, gros casse-tête, mais oui. C'est le genre de morceaux comme le fait que des spécialistes sont payés pour signaler, bien, ça vient mettre un morceau dans cette espèce de casse-tête-là.
Absolument, puis peut-être que ça perd un peu de confiance aussi auprès du public, exact. Auprès des parents, auprès de... Merci beaucoup, Mylène Moisan, chroniqueuse au Soleil. Très contente de t'avoir parlé aujourd'hui. Merci pour le
ça
texte.
Ça fait plaisir.
Au plaisir.
Au
Je vous souhaite un excellent week-end pour ceux qui ont à quitter pour l'heure du lunch. Pour les autres, bien, on traverse tout de suite dans Marceau le midi, c'est la fin de leur CV. La semaine prochaine, ben, on a une extension. On est encore une semaine ensemble à 10h pour le 10 à 11 dans leur CV. Un bonheur de savoir qu'on a cette semaine-là et par la suite, ben, vous savez que la programmation de Boulevard 102.1 sera annoncée le 28 août prochain. Ça veut dire jeudi prochain. Vous aurez tous les détails de la suite à ce moment-là. Merci. On se retrouve tout de suite dans Marceau le midi avec Yannick Marceau.
Boulevard.